all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about freedom.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de Destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 76, Inès à cœur ouvert, de l'enfant bouc émissaire à la femme warrior. Vous l'avez compris, c'est le témoignage du mois. Alors sans abuser de votre patience, je vous laisse vous installer tranquillement et vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bonjour Inès, bienvenue dans l'émission des parents toxiques. Je suis ravie de t'accueillir. Comment vas-tu ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va. Un peu fatiguée, mais ça va, on va tenir le coup.
On est là.
C'est ça. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux brièvement te présenter, s'il te plaît ?
Je m'appelle Inès, j'ai 28 ans, je suis parisienne, je suis d'origine un petit peu mélangée en fait, je suis issue de parents déjà métis entre eux, donc Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Europe, voilà, donc j'ai grandi dans un milieu assez cosmopolitain comme on dirait, et voilà, si je peux dire brièvement ça, voilà, j'ai eu voilà, une vraie parisienne qui a grandi avec un monde coloré, okay, et qui a vécu aussi à l'étranger, voilà.
D'accord, ok, bon bah c'est super. On a un point en commun, je suis parisienne aussi, donc...
Ok. Vive Paris.
Voilà, c'est ça. Mais bon, je ne vis plus à Paris, mais voilà, j'ai vécu longtemps à Paris. Enfin, je suis née, j'ai vécu longtemps à Paris, donc je connais.
D'accord.
Je connais Paris, les métros parisiens qui sentent super bon.
Oui, ça
sont super propre.
Oui, bah j'habite toujours dans Paris, moi, donc voilà. Il y a du mieux et il y a du pas mieux, on n'a qu'à dire ça. Mais ça ne suffit pas à justifier les 400 euros de Navigo, je suis désolée.
C'est ça. Mais moi, j'ai à un moment donné, bon, là, on sort carrément du contexte. Mais c'est pas grave, c'est vivant. Mais oui, moi, en fait, quand j'étais repartie à Paris pour un séminaire de 3 jours l'année dernière, j'avais oublié à quel point c'était, enfin, le métro était sale, ça m'a tellement choquée que je me suis dit, mais à un moment donné, il faudra que j'écrive à Macron, quoi. Parce que c'est pas ça. Possible.
C'est pas tant le métro qui est sale quand tu y penses. Moi, je trouve que c'est les gens, surtout, qui sont pas vraiment hygiéniques, qui sont, ont pas de comportement. Parce que vraiment, tu te dis, si les gens étaient un peu plus propres, un peu plus disciplinés, le métro, il serait plus ou moins propre. Parce que tu vas dans des pays étrangers. Enfin, j'ai fait Londres, j'ai fait Amsterdam pendant longtemps. Ouais. Rien à voir. Hein. Et tu dis, ah ouais, c'est les Parisiens, vraiment, ils sont sales, les Français.
C'est ça.
Donc ouais, le problème, c'est l'humain, surtout. Ouais, pas le métro, c'est l'humain.
C'est ça.
Donc voilà. Désolée si je renifle un petit peu, je suis un petit peu enrhumée, les allergies, tout ça.
Il n'y a pas de problème, ça va être freestyle, mais contrôlé. Voilà.
Tout à fait.
Ok, donc, alors, pour expliquer un peu le contexte de notre interview, tu m'as connue à travers mon podcast.
C'est ça.
Et tu m'as contactée par la suite via Instagram pour partager d'une part très rapidement que tu avais des parents toxiques. Et d'autre part que la découverte de mon podcast avait beaucoup aidé aussi. Donc ensuite, tu t'es proposée, si ça me disait, de partager ton témoignage, chose que j'ai acceptée. D'où cette interview.
C'est ça, tout à fait.
Alors, on va passer à présent aux choses sérieuses. Ton histoire. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner ta définition du parent toxique ?
Alors, un parent toxique, oula, pour moi, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'il y a de la toxicité. La toxicité, ça enveloppe plusieurs choses. Ça peut tout dire comme rien dire, mais en tout cas, un parent toxique, c'est un parent qui te fait souffrir, enfin, qui te... de façon voulue en fait. Il y a vraiment une volonté de nuire et de faire du mal et de blesser l'enfant, or que normalement c'est tout sauf ça un bon parent.
C'est sûr.
Donc je pense que c'est à partir du moment où on fait du mal volontairement à un enfant que la toxicité d'un parent est présente.
C'est ça. Ça peut être volontaire ou involontaire.
Hein. Involontaire aussi.
C'est ça. Il y a des parents qui aiment mal leur enfant.
C'est ça. Il y a mal aimé. Il y a mal aimé aussi. C'est vrai qu'il y a ce truc où on aime mal et je pense que j'ai connu les deux. Mais oui. Après, il y a des degrés. Il y a un truc qui rentre en compte. Mais oui, dans tous les cas, c'est dès qu'on fait du mal, quoi.
Exactement. Alors, donc, dans ton cas, en fait, tu m'as précisé que c'était tes deux parents qui étaient toxiques.
C'est ça. Mmh, tout à fait.
Est-ce que tu peux nous décrire l'atmosphère familiale dans laquelle tu as grandi ?
Alors, moi, j'ai grandi avec un grand frère d'un an d'écart. Donc, on a toujours été très, très proches. Vraiment, on nous prenait pour des jumeaux petits et tout. Mmh. Mes parents se sont mariés quand ils étaient assez jeunes. Ma mère avait peut-être 22, 23 ans et mon père 25, 26. Donc, voilà, on a grandi dans un foyer plus ou moins rempli d'amour, mais qui s'est très vite brisé parce que mes parents ont divorcé, se sont séparés quand j'avais 5 ans. Mmh. Donc j'ai très peu de souvenirs avec eux et en fait ça a été très vite monté en escalade. En fait j'ai peut-être un ou deux souvenirs de mes parents ensemble, mais très vite j'ai la séparation, les violences conjugales qui sont très vite venues et la toxicité, etc., etc. Donc voilà. Et puis par la suite j'ai une petite sœur qui a un amour qui est venu 9 ans après du côté de ma mère et donc voilà. Et voilà, j'ai grandi dans une ambiance assez, on va dire, il y avait beaucoup d'amour, mais je pense que l'amour était présent, mais ça a été très mal géré sur tous les à côté négatifs qu'il y avait hyper présents, quoi.
D'accord. Bah justement, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment se manifestait concrètement la toxicité de tes parents ?
Déjà la toxicité, on va dire, du père, ben beaucoup de violence, de la violence conjugale, énormément de disputes. En fait, il y a eu acte de tromperie et de mariage sur le dos de ma mère.
Ah oui.
Donc voilà, ça a été très violent pour elle. Au bout de 10 ans de relation, vraiment, ça l'a vraiment anéanti. Enfin, ce que je comprendrais tout à fait. Donc une sorte de, qu'elle n'admet pas, mais bon, une sorte de dépression, c'est normal. Tout à fait que ça se passe ainsi. Donc il y a eu ma mère qui était une femme très trop gentille à l'époque l'a laissé rester à la maison et en fait lui il venait, je m'en souviens très bien, avec des égratignures et des griffes de femmes de ses maîtresses et tout. Donc c'était de la provocation pure et simple de sa part, mais il a toujours été très provocant, cet homme. Et donc il y avait je me souviens une fois où c'est parti jusqu'aux violences, en fait, où ça a été à se battre dans un 100 mètres carrés, à se balader de gauche à droite. Et j'étais là avec mon frère, on avait 5 et 6 ans. J'ai dû m'accrocher à la jambe de mon père pour qu'il arrête d'essayer de casser le bras de ma mère. Enfin, ça a été très loin. Je me suis mise à vomir et depuis j'avais développé depuis quand j'étais petite, dès que j'avais peur, je vomissais. Donc c'est ça qui avait stoppé la dispute. Mais c'était ça. J'ai eu la police qui est venue ensuite en pleine nuit nous réveiller parce que mon père, il supporte pas quand les choses ne vont pas dans son sens et il a du mal. J'ai catégorisé toujours comme père et mère, même si c'est plus de lui, c'est vraiment plus un géniteur qu'autre chose. Mais voilà, donc la police était venue et on nous a réveillés en pleine nuit. C'est quand on a 5 ans, on comprend vraiment rien ce qui se passe. Et puis je me souviens que ma mère, je hurlais pour qu'on me lâche parce que je comprenais pas pourquoi des grands flics me prenaient en pleine nuit. Et voilà, donc ça a été vraiment un premier événement, deux événements très traumatisants qui se sont passés vraiment. En quelques jours, en quelques semaines, j'ai pas vraiment la notion de temps, mais c'était très rapide et je me souviens que j'ai fait une sorte de régression après. Je repissais au lit, je redemandais le biberon, j'étais pas rassurée. Enfin, j'ai eu une peur de l'abandon extrême parce que il y a eu plein d'autres choses qui se sont suivies. Ma mère, par exemple, qui sentait pas bien, il y a une de ses meilleures amies qui a appelé ma grand-mère maternelle qui était mauritanienne, donc qui habitait en Mauritanie, qui a envoyé ma mère 2 semaines là-bas. C'était notre père qui s'occupait de nous, sauf que ça s'est très mal passé pendant 2 semaines. Il nous a dit que notre mère nous avait abandonné. Enfin, c'était un montage de cerveau, que c'était, je vais être vulgaire, pardon, mais que c'était une PUTE, qu'elle l'avait trompée. Enfin, c'était vraiment du montage de cerveau qui a très vite commencé, vraiment de la manipulation. C'est un manipulateur, un charmeur, et il voulait vraiment qu'on soit dans son camp, ça a été vraiment pas, on a été très vite, en fait, malgré nous, on a été très vite mis au centre du divorce, quoi. de la séparation. Et donc voilà, j'ai développé par la suite beaucoup de traumas liés à cette période et ça a été assez compliqué, quoi. Mais heureusement que j'avais mon grand frère qui a toujours été là pour moi et on a su se serrer les coudes parce que sans lui, honnêtement, je serais plus là. Enfin, ce serait vraiment très très compliqué à gérer émotionnellement et même physiquement. Je pense que ça laisse des séquelles et voilà. Et donc ça a été très vite toxique, très vite mené par les menaces, par les insultes, par je sais pas si c'est normal à 6 ans de découvrir le mot pute, quoi. Enfin, ça a été très vite monté en escalade et très vite les gens voulaient qu'on prenne parti, etc. Enfin, ça a été un divorce très houleux, quoi.
Ah oui.
Donc voilà.
D'accord. Et par rapport et du côté de ta mère. Comment ça se manifestait, cette toxicité, enfin.
Alors, la toxicité, ma mère, en fait, j'ai pas les souvenirs, enfin, si tu veux, la toxicité de ma mère, c'est pas montré, elle est pas montée d'un coup après le divorce. Donc, comme j'ai dit, après la séparation, elle a été très affectée psychologiquement, ce que je comprends tout à fait. Elle a perdu l'une de ses sœurs juste après, juste avant, elle a enchaîné vraiment, vraiment des trucs pas cool. Et au bout d'un moment, ma mère a voulu refaire sa vie comme tout le monde. Et, et voilà, elle est tombée enceinte de son petit ami de l'époque. Donc, elle a eu ma sœur. Enfin, elle était toujours en procédure de divorce avec une personne. C'est très compliqué. Enfin, bref. Et ma sœur est née. Voilà. Et il y avait beaucoup de problèmes financiers à la maison. Ça a été très compliqué, ça a été très 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 compliqué. Enfin, vraiment, c'est monté tout en escalade et ma mère avait eu un accident de quad à l'époque et elle ne pouvait pas travailler pendant un certain moment parce qu'elle avait des cervicales pétées et tout. Et en fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a eu un manque, en fait, il fallait qu'elle trouve peut-être pas un responsable ou j'en sais rien, mais enfin elle a commencé à passer ses nerfs très vite sur moi. On dit toujours que l'enfant du milieu c'est celui qui prend le plus cher, et ben moi j'en suis l'exemple même. Enfin, vraiment c'était tout le temps. Enfin, je me souviens que ça a été très vite. Je saurais pas dire quand exactement ça a monté, mais j'ai une proche, une tante, je l'appelle ma tante, mais c'est l'ancienne meilleure amie de ma mère qui m'a dit qu'elle a les souvenirs que très tôt, à 9-10 ans, ma mère, elle a un souvenir, en fait, que ma mère, que j'avais 9 ans, j'étais tranquille sur le canapé en train de lire un livre et ma mère est venue, elle m'a tapé.
Ah oui.
Et moi, je n'ai pas ce souvenir-là, alors que j'en ai des milliers d'autres, et elle a dit à ma mère, elle a demandé à ma mère, mais pourquoi tu la tapes? Elle est là tranquille et tout. Et ma mère a juste dit, oh, elle m'énerve. Je lui ai dit de faire un truc, elle a pas fait. Enfin, vraiment, c'était, je pense que ma mère est une Africaine aussi, une Africaine de l'Ouest, elle a grandi avec on l'a tapé au fil électrique, enfin pour elle c'était coutume d'être tapé sans aucune raison. Et donc elle a connu beaucoup de violence, enfin elle a vu pas trop elle, mais elle a vu la violence, elle a vu ce que c'était, elle en a subi un petit peu, elle a subi plutôt des sévices morales qu'autre chose elle, mais et donc voilà, et donc je me souviens d'une fois où elle me courait après dans l'appartement et que c'est mon frère qui s'est mis entre elle et moi pour pas qu'elle me tape. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Et moi, ça a vraiment monté à l'adolescence. On dit toujours que ma mère, c'était une très belle femme. Elle a été mannequin, vraiment, elle a eu, voilà. Mais elle n'est pas allée au bout des choses parce que je pense qu'elle a un grand manque de confiance en elle, etc. Et ça a beaucoup joué dans sa toxicité. Et donc bref, si tu veux, quand on était adolescent, on est parti. Ma mère avait rencontré quelqu'un qui habitait en Bretagne, et donc on est parti vivre avec lui au bout de quelques mois de connaissance. Voilà. on va pas refaire le portrait psychologique de ma mère, mais c'est chaud. en fait, si tu veux, juste avant, on a été. C'est quelque chose que j'ai omis de dire, mais en fait, de mes 12 à 13 ans, j'ai été sans domicile fixe. Vraiment sans domicile fixe, donc à la rue. Ma mère a épousé quelqu'un quand j'avais 11 ans. Au bout de 3 mois, ils sont fiancés, et voilà, mariage express qui a duré 6 mois. Mais c'était un alcoolique qui s'était tapé avec mon frère, enfin qui avait tapé mon frère à l'époque. Mon frère fait 1m95, je tiens juste à signaler qu'à 12 ans, il faisait 1m80, donc tu pouvais pas faire le malin avec lui comme avec un enfant lambda, donc il s'était bien défendu et tout. Ça a été très vite. On a refusé ce mariage avec mon frère, tout à fait normal parce qu'on n'aimait pas la personne. On est parti vivre 6 mois avec mon père au Sénégal. Mon père est expatrié sénégalais aussi, donc voilà. On est revenu en France parce que voilà, c'est les vacances de Noël et puis moi ma mère me manquait trop, ma petite sœur me manquait trop, etc. Donc quitte à être avec l'alcoolique, ben voilà. On est revenu et puis ça s'est dégradé entre eux. Donc voilà, rebelote, redivorce, etc. Qui était mieux pour tout le monde, vraiment mieux pour tout le monde, et on s'est retrouvé à la rue. Ma mère n'a pas eu d'emploi depuis plus de 20 ans, quoi. Donc compliqué niveau finance, etc. On s'est retrouvé chez le père de ma sœur, le père de ma sœur. Ma sœur nous a virés. On s'est retrouvé chez un voisin, dans des foyers, chez des copines à ma mère. Enfin, ça a été vraiment une année très très dure. Et je me souviens qu'une fois, j'avais ramené un bulletin en cinquième de 7,5 de moyenne. Noté qu'on était toujours à la rue et ma mère m'avait engueulée en mode « Je comprends pas pourquoi t'as des mauvaises notes. » Et j'étais en mode « What ?» Mais littéralement, on est balancé de gauche à droite, puis on devait vraiment pas dire qu'on allait au collège, il fallait pas dire qu'on était à la rue, sinon c'était la DAS, etc., les foyers, etc. Ce qui était pas plus mal, parce que la DAS, on sait très bien que c'est pas non plus voilà le Club Med.
C'est sûr.
Et que c'était très important voilà qu'on reste ensemble, qu'on reste soudés, mais bon, en vrai de vrai, je me souviens que moralement, c'est là où ça a vraiment commencé à beaucoup peser pour moi. Et voilà, donc là, la toxicité, elle a commencé à grimper beaucoup d'engueulades. C'est là où ça a commencé, beaucoup d'engueulades de sa part, beaucoup de cris, beaucoup de... Pour aucune raison, enfin, il y avait... Enfin, je pense, on est tous des ados. On fait, mais moi, je n'ai pas été une ado difficile. Vous demanderez à tout le monde, je n'ai pas été une ado difficile, je n'ai pas été une enfant difficile. Au contraire, j'étais assez sage. Très pipelette, mais assez sage. Et quand, donc voilà, c'est vraiment au bout de 12, 13, 14, 15 ans que là, la toxicité a vraiment commencé à grapper d'un coup. Donc, on est parti vivre en Bretagne parce que, voilà, il y avait une issue de secours, entre guillemets, etc. Et, je me souviens, c'est là, en fait, où la peur, elle a commencé à monter, où j'ai vraiment commencé à avoir peur d'elle. Enfin, j'ai développé, en fait, si tu veux, entre mes 13 ans, des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Très fort. Enfin, j'ai été à 52 kilos pour 1m75. On m'a menacé de m'emmener à l'hôpital, etc. Et j'avais une mère qui était pas du tout compréhensive. Ah, c'est des maladies de blanc, des trucs comme ça. Puis ça n'existe pas chez nous. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vais te foutre à bouffer dans la bouche. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Oui. Enfin, c'était pas la bonne méthode. Puis j'ai souffert de boulimie aussi, donc je me suis fait vomir. Enfin, c'était vraiment pas fun. Et donc bref, voilà. Et puis on s'était retrouvés de 4 personnes à 7 personnes parce qu'il avait des enfants aussi. Elle avait toute une intendance à gérer. Et une fois, je me souviens, j'avais 15 ans. Ma mère a commencé à me battre de façon pas régulière, mais j'ai été vraiment. Je me suis pris un coup de poing dans la gueule, littéralement de sa part, quand j'avais 15 ans, parce que j'avais osé. Enfin. J'avais une soirée de prévu chez mon beau-père. Mon beau-père a décidé d'annuler pour aucune raison valable, selon moi. Donc, je suis partie le voir. Je lui ai parlé tranquillement et tout. Et ma mère est venue en trompe. Elle m'a dit « Ferme-la, ferme-la, ferme-la !» Et je me suis pris un poing dans la gueule.
Ah oui.
Je me souviens qu'elle m'avait donné 10 euros pour pas que j'aille porter plainte. Waouh, ça valait vraiment le coup des 10 balles. Mais je me sens être restée vraiment... choquée, quoi. Enfin, je savais pas quoi faire, quoi dire. Et mon beau-père était là. Je me souviens pas d'une réaction de sa part. Donc, je me souviens, je suis montée dans ma chambre et tout. Et j'étais vraiment juste choquée. Vraiment choquée. Puis après, puis j'ai commencé à me prendre des claques. Pour aucune raison. Enfin, vraiment, une fois, je m'en souviens, j'allais au collège le matin. Il était 7h, 7h30. Et ma mère, elle m'a foutu une tarniole comme ça. Et c'était, et mon beau-père était là, il m'avait pris dans ses bras et tout, et je me souviens que j'avais crié que j'en avais marre, quoi, enfin, que j'en avais juste marre. Et donc, je commençais à me réveiller en larmes le matin, à être vraiment pas bien, à me plonger petit à petit dans une déprime assez intense, je m'enfermais sur moi-même, c'était très compliqué, et ça se passait, en fait, ma mère, en fait, si tu veux, j'étais un punching ball parce que ça se passait pas bien non plus avec ce beau-père. Et donc j'étais la proie facile. Ma sœur était, je pense, trop petite à l'époque. Je rappelle qu'on a 9 ans d'écart, donc j'en avais 15, elle en avait 6. C'est pas pareil de donner des coups à un enfant de 6 ans.
C'est sûr.
Et donc à 6 ans, tu peux plus vite parler qu'un enfant de 15 ans. Je pense aussi qu'il y a ça. Et mon frère faisait déjà plus d'1m90, donc c'était archi mort pour le taper. Moi j'étais, et c'est un truc que j'ai posé à ma mère. J'ai dit pourquoi tu ne le tapes pas lui. Elle me dit lui il fait 1m95. Si je le tape, il me tape, voilà quoi. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Et donc, voilà, les violences ont commencé à augmenter petit à petit. Puis on a reménagé dans la même ville, mais à quelques 100 kilomètres de mon beau-père. Et là, parce que ça n'allait plus entre eux. Et donc, voilà, une fois, je me souviens qu'elle avait pris l'aspirateur, qu'elle m'avait tapé avec. J'étais partie, je me souviens, j'avais fugué, entre guillemets, dans l'après-midi. J'avais rejoint des copines et je leur avais raconté. Mmh. Et j'étais pas si bien entourée que ça, parce que la plupart de mes copines en question ont rigolé quand je leur ai dit que je m'étais fait taper par un aspirateur.
Ah oui, d'accord.
Parce qu'elles s'imaginaient... Parce que pour elles, c'était impensable, en fait, de se faire taper déjà de un et de deux par un aspirateur. Ouais. Et je leur dis, mais ça fait très mal l'aspirateur, hein, vous savez, ça fait super mal.
C'est sûr.
Et donc voilà, je voulais porter plainte et tout. Et ma mère, je m'en souviens, je lui avais dit que j'allais me barrer, que j'allais me porter plainte et tout. Elle m'a dit, très bien, je vais t'accompagner au commissariat comme ça, nanana. J'avais commencé à avoir des violences, parce qu'il n'y avait pas que les violences physiques, il y avait les violences morales. Ma mère s'amusait quand j'avais 14 ans. Par exemple, je me souviens une scène où j'avais 14 ans, je faisais mes devoirs. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ouais, j'ai rêvé que je te tuais cette nuit en prenant ta tête et en la foutant dans le mur. Sans aucun contexte, alors que j'étais en train de faire mes devoirs de maths.
C'est ça.
Voilà, je ne sais pas why, qu'est-ce que j'ai fait. Et encore une fois, enfin, vraiment, c'était vraiment des pics comme ça. Et puis toujours ce sentiment, ma mère est un peu plus grande que moi, elle fait 1m80, je suis 1m75. Elle a énormément de force, c'est une maman africaine qui a beaucoup de force. Enfin, elle est très mince, mais elle est très musclée.
Ouais.
Et donc, elle me prenait toujours, elle avait tendance à me pincer ou à me prendre par le ventre ou me faire des trucs comme ça. Elle me disait toujours, ouais, regarde, j'ai plus de force que toi, j'ai plus de force que toi. Ou des fois, elle allait s'amuser à me faire un bras de fer. Et vraiment, le bras de fer n'était pas juste. Enfin, on voulait, mais c'était limite à me péter le poignet, quoi.
Ouais.
Et donc, c'est monté. Puis une autre fois, je me souviens, moi, je pouvais pas me battre parce que j'avais 16, 17 ans aussi, elle a commencé à me prendre dans l'appartement et à me faire valdaguer me faire valser sur 100 mètres carrés. Mmh. Et à me dire, t'es qu'une pute, t'es qu'une salope, mais vraiment, encore une fois, je tiens pas à me justifier parce que je sais comment je suis, mais j'étais vraiment pas une aide de je n'ai jamais fugué, je n'ai jamais fait de conneries, je n'ai jamais manqué de respect à ma mère. Même à ma mère, juste un tu m'ennuies, c'était une claque en direct parce que on ne parle pas comme ça en Afrique, etc.
C'est ça.
What? Mais moi, j'avais le droit à salope, pute, tu vas te faire foutre, je vais te tuer, etc. Et donc, je me souviens qu'elle m'avait baladée de gauche à droite et il y avait mon père qui était là, elle m'avait balancée dans son lit, elle me frappait et moi, je me protégeais vraiment la tête en mode boxe et elle me disait, arrête de me taper, arrête de vouloir me taper. Parce que je lui tenais les bras, les trucs comme ça. Elle disait, lâche, pour que je te batte et tout, machin. Et c'était vraiment trop, quoi. Et en fait, mon frère était en pensionnat.
Ouais.
Donc, en fait, ma mère profitait que mon frère ne soit pas là pour faire...
Ouais, attends, tu peux juste te rapprocher du micro.
Pardon, le micro est tombé. Tu m'entendais plus.
Non, vas-y, continue.
Non, je disais que mon frère vivait en pensionnat à 30 kilomètres de chez nous, donc elle profitait que mon frère ne soit pas là pour que les violences ne soient pas vues. Sauf une fois où mon beau-père a assisté à la scène et tout, mais je comprends pas pourquoi il a jamais réagi. Enfin, moi, il s'est jamais imposé, opposé, ni rien. Et c'était juste too much. C'était juste trop. Et puis, je m'en souviens une fois, je m'étais confiée à mon frère. J'ai dit, ah oui, j'ai peur qu'elle me tue, littéralement. Ouais. Et il comprenait pas pourquoi j'avais cette peur vraiment enivrante de ma mère. Parce que je la sentais vraiment capable de me tuer. Ouais. Vraiment, c'était une peur bleue. Et je m'en souviens, dès que j'ai eu mon bac à mes 19 ans, je lui ai toujours dit, j'ai mon bac, je me casse. Et je m'en souviens qu'à 16 ans même, je cherchais à me faire émanciper. Ouais. Mais il allait avoir une enquête et tout. Je voulais pas que ça se répercute sur ma petite sœur et tout. Donc, j'ai eu mon bac. Je me suis barrée à 500 kilomètres d'elle. Ouais. Voilà, mais ça a été... compliqué psychologiquement par la suite quand même et voilà et donc j'ai oublié de dire aussi que j'étais victime de d'attouchements sexuels à l'âge de 13 et 14 ans par des membres de ma famille.
D'accord.
Des cousins de ma mère. Même pas dire que ce sont ses cousins, mais ce sont bien ses cousins. Ça a été fait alors que ma mère était dans la pièce d'à côté à chaque fois et j'ai pas osé dire les choses parce que il y avait tellement déjà de problèmes et tout que je voulais pas que ça envenime alors que il y avait rien du tout quoi. Enfin, il y avait de mon côté, au contraire, ça aurait été très bien de le dire. Et donc, j'ai revu plusieurs fois ces membres de la famille après. Il y en a même un qui a demandé ma main à ma mère. Enfin, c'était vraiment très lunaire. Enfin, j'étais en mode « What ?» Et j'ai pas osé lui dire les choses avant mes 23 ans. Mais ça m'a vraiment psychologiquement, ça m'a très, très atteinte. Très, très atteint. J'ai été victime d'un viol ensuite par la suite, dans ma vingtaine d'années, bien après. Mais ça m'a vraiment, vraiment psychologiquement très atteint. Et quand je lui ai dit les choses à ma mère, elle m'a juste dit, bah, on va pas leur dire parce que de peur que, on va pas porter plainte ni leur dire. Enfin, je pense que j'avais passé le délai des 10 ans. Enfin, c'est ce délai que je comprends vraiment pas. Et de porter plainte. Et elle m'a juste dit, on va pas leur dire parce que sinon, ils vont nous marabouter, ils vont faire la sorcellerie, etc. Et tu peux juste les confronter, c'est pas grave. Et apparemment l'un des cafards qui m'a fait des attouchements aurait violé l'un des enfants de ma famille. Donc non mais ils étaient connus même les deux. Il y en avait un qui avait épousé une aînée qui avait mon âge alors qu'il en avait déjà la cinquantaine. Enfin c'était ça se voyait quoi. Donc très vite j'ai dit moi je ne veux plus jamais les voir, plus jamais entendre parler d'eux. Ma mère avait coupé je crois le contact avec eux. Mon frère a prévu de les tuer, mais ça c'est ce que chaque grand frère a envie de faire quoi.
C'est sûr.
Mais ça a été beaucoup d'enchaînements physiques et moraux très pesants. Enfin là juste là en te parlant de ça je fais de l'eczéma donc voilà quoi. C'est c'était pas facile quoi.
Bah oui c'est sûr. Par rapport justement aux moyens de survie. Pour justement supporter tout ça, quels étaient tes moyens de survie pour gérer comme tu pouvais toute cette toxicité, toute cette violence?
La cigarette. Je veux dire une chose, j'ai commencé à fumer très très jeune. À 14, 13 ans et demi, j'ai fumé ma première cigarette. À 14, 15 ans, je fumais en cachette, mais c'est pas le bon moyen. Mais vraiment, j'ai été très vite, je vais pas dire dans des formes d'addiction, mais j'ai plus ou moins été alcoolique une période de ma vie aussi. Dès que j'ai pu sortir, je sortais à 16 ans. Vraiment, je faisais la fête. J'ai pas touché aux drogues dures. Enfin, vraiment. Mais voilà, beaucoup de fêtes, beaucoup de soirées. Je sortais. Heureusement que j'avais des très bonnes copines à moi que j'ai toujours dans ma vie, pas celles qui avaient rigolé le coup de l'aspirateur, mais que j'ai connues dans mon adolescence quand je suis arrivée en Bretagne. Et c'est mes sœurs vraiment. Mais elles ne savent pas tout de ce qui s'est passé, même elles. Donc elles vont découvrir ça à travers le podcast. J'avais des amis formidables. Enfin. Puis il y avait un truc que j'appelle le mode robot. Vraiment, c'est ne pas essayer d'avoir le moins d'émotions possible, avancer tout droit, pas se poser mille et une questions, mais ça prenait souvent le dessus. Je pense aussi pour ça que j'ai développé des TCA aussi, parce que c'est une forme de dégoût qu'on a envers soi-même et envers les autres. Voilà, j'ai fait énormément. J'ai eu de la chance, je faisais énormément d'activités extrascolaires, donc j'ai fait de la danse. Pendant une dizaine d'années, j'ai même donné des cours en Bretagne. Donc ça m'aidait. J'avais monté ma propre association où je donnais des cours. Vraiment, c'est une des choses qui m'a sauvé la vie. Voilà. Et le fait de me dire qu'un jour j'allais me barrer.
C'est ça.
Vraiment, la résilience, le fait de me tenir au fait que j'avais une deadline et que j'allais sortir de ça. Et j'ai pas dit, mais à cette époque-là, je ne parlais déjà plus ou moins mon père, mais c'était vraiment ça qui me disait il y a une lumière au bout du tunnel, accroche-toi. Et voilà, après moi j'ai une certaine sensibilité à d'autres choses qu'on ne peut pas quantifier. Vraiment je trouvais ma paix ailleurs, enfin je suis quelqu'un de très spirituel toujours et voilà, et je me confiais à Dieu, à l'univers, et je me disais toujours faites que tout ceci ne soit pas pour rien, même si c'est très injuste et que voilà, j'ai pas du tout la vision religieuse. Moi, c'est quelque chose vraiment à part. Et donc voilà, donc je me rattachais à la sortie, vraiment à la sortie, quoi.
Ouais. Ok, ouais, c'était oui. Donc tout ce qui était sortie, danse, c'était vraiment oui des moyens de
voilà. D'émancipation et à la sortie singulière, à la sortie à la bout du tunnel, au fait que j'allais avoir mon bac et que j'allais partir, donc vraiment aux sorties et à la sortie.
Voilà. Ouais.
Je me rattachais à ça vraiment et je me disais que j'étais pas en. À l'adolescence, on est très vite faible. On n'est pas des adultes, on n'a pas les moyens de s'exprimer à 100%. On nous laisse pas une place. On n'est pas considéré comme un membre à part. On est vraiment une chose. J'étais vraiment un objet. Et vraiment, je me dis un jour, je serai une adulte, j'aurai les moyens de parler, de dire la vérité. Enfin, vraiment, je tenais vraiment à ça, quoi.
Mais justement, quand tu seras adulte, tu auras les moyens de dire la vérité. Donc, la vérité à qui? À ta mère ou à d'autres personnes, aux institutions, à qui exactement?
À moi, aux gens, à ma mère, pas forcément aux institutions, parce que j'ai pas envie d'avoir de procédure. Non, enfin, c'est vraiment pas ça qui me motivait. Mais mmh. c'était plus de vivre dans ma vérité. Mmh. Parce que ma mère, elle a été très vite mise sur un piédestal. Enfin, j'avais toujours cette vision de déesse, malgré tout. Ma mère, je l'ai aimée et profondément. Vraiment, je pouvais mourir pour elle. Et vraiment, je pense que cet amour ne s'est pas éteint aujourd'hui, mais il est très, très, très réduit comparé à avant. Et ma mère était vue par une maman idéale, par mes copines, etc. Parce qu'elle était très belle, très grande, très gentille, très souriante. Et moi, à chaque fois, ça me saoulait parce que je voulais pas briser cette... Je voulais pas que les gens la voient comme moi je la vois, parce que ça allait les dégoûter. Mmh. Et donc je me disais, oui, un jour je dirai la vérité, je dirai comment elle est, je dirai comment j'ai subi les choses, ça remettra tout le monde à sa place. Et parce que certaines fois mes copines comprenaient pas trop pourquoi je voulais pas trop rentrer, des trucs comme ça. Donc ça expliquerait plein de choses, plein de comportements. Et quand j'ai commencé à parler même à des membres proches, ma cousine, etc., elle m'a toujours dit qu'elle avait toujours, enfin, à toutes les personnes que j'ai dit ça, elles ont toujours dit, oui, j'ai toujours senti un truc chelou.
D'accord.
Mais elle n'osait pas en parler, parce que j'en parlais pas. J'étais quelqu'un, je ne parlais pas de ça. Enfin, voilà.
D'accord.
Donc, vraiment, le fait de me libérer, quoi.
Et quand tu dis que tu aimais beaucoup ta mère, qu'est-ce qui fait que tu l'aimais? Est-ce que c'était plus par rapport à l'image qu'elle renvoyait, l'image de la belle femme? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu l'aimais?
Je pense que j'ai déjà, par rapport au traumatisme quand j'étais petite, enfin, moi j'ai toujours préféré ma mère à mon père. Très vite, quand on a dû choisir, on a dû faire des choix, etc., partir en vacances avec le père, je me sens très bien les premières vacances. La première fois qu'on devait partir seul avec lui, j'ai refusé de quitter ma mère. Enfin, vraiment, j'étais une fille à maman. J'étais vraiment une fille à maman. Je voulais que ma maman. J'étais hyper jalouse des autres enfants. C'était vraiment naturel, quoi. Enfin, vraiment comme ça. Et j'avais cette image de... Enfin, vraiment, quand j'étais petite, j'étais très, 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 très aimée par ma mère avant que ça parte en sucette. Et donc, je me suis toujours attachée à cette mère du passé, mais qui avait bien changé. Et donc, vraiment, je me disais qu'un jour, peut-être, elle reviendrait comme ça, elle redeviendrait elle-même, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est deux entités différentes. Vraiment deux personnes totalement différentes.
Ok, voilà. D'accord. Aussi, tu dis à un moment donné que, en fait, elle faisait des bras de fer avec toi, ce genre de choses. Est-ce que, quelque part, il n'y avait pas une certaine rivalité avec toi, ou comment...
Alors,
tu peux l'expliquer?
Si, beaucoup de personnes m'ont dit qu'il y avait là une forme de jalousie, parce que voilà, c'était une femme qui était très belle, etc. Mais moi, je l'ai jamais senti comme ça, mais c'est biaisé, quoi. Mais ma vision est biaisée. Et oui, tout le monde disait une forme de concurrence. Et puis voilà, il y a toujours une sorte de concurrence mère-fille et tout. Je ne veux pas croire en ça du tout. Je pense pas que c'est quelque chose de normal et que c'est naturel. Je pense juste que c'est pour les personnes qui sont fucked up du cerveau, qui se mettent en concurrence avec leurs enfants. Et moi, je vivais... Enfin, vraiment, j'ai jamais été bloquée psychologiquement, physiquement. J'ai toujours pensé les choses comme j'ai voulu les penser, malgré tout. Et voilà, puis je m'en souviens que je voulais faire du mannequinat aussi. J'ai été un petit peu mannequin aussi quand j'étais plus jeune. Et ma mère disait toujours, oui, non, mais tu peux le faire. Et derrière mon dos, elle disait aux gens, non, mais j'y ai jamais cru pour elle, etc.
Ah oui.
Oui, non, mais c'était très compliqué. Et donc voilà. Et puis j'étais une enfant. Pardon, c'était quoi ta question déjà?
Je te demandais s'il n'y avait pas une forme de rivalité.
De rivalité. Ah oui, oui, oui. En fait,
le bras de fer, c'est pas anodin, hein, le bras
oui,
de fer.
Oui, oui, oui. Après, elle en faisait avec mon frère et tout, tu vois. Donc voilà, mais moi, je me sens que ça me faisait très, très mal en particulier. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais très maigre à l'époque. Mais voilà, je l'interpréterai comme ça. Et en fait, pourquoi je ne vois pas cette forme de rivalité et tout, je ne sais pas, parce que moi, quand j'étais petite, quand mes parents ont divorcé, j'ai énormément pris de poids. À un point, j'étais pas obèse, j'étais bouboule, mais j'ai été à l'hôpital, on m'a fait un suivi, etc. Et ma mère me disait toujours, oh, j'aurais aimé avoir une fille maigre, oh, j'aurais pas mince, maigre, mais mince, oh, j'aurais aimé avoir une fille mince et tout, j'ai subi de l'harcèlement scolaire et tout, etc. Et ma mère avait pris énormément ma défense, je me souviens que c'était allé jusqu'au directeur, enfin, j'ai été toujours, même en maternelle, j'ai subi de l'harcèlement, j'ai été victime de violence de la part de d'autres enfants, où c'est allé au point où je me suis retrouvée le visage en sang et que l'enfant était viré de maternelle. Et donc, pour moi, j'avais toujours pris que ma mère comme mon héroïne, ma défenseuse, quoi. Jusqu'au moment où ça a complètement changé des années après. Et donc, j'ai du mal à avoir cette vision de jalousie, tout. Je sais qu'elle est là, mais moi, j'ai du mal encore même aujourd'hui à la quantifier, quoi. Mais je le vois aujourd'hui. Alors, je le vois aujourd'hui parce que quand je parle de ma vie en général, de jeune femme, de 28 ans, etc., que je fais des rencontres, que je voyage, etc., ma mère, je vais lui raconter les choses, elle va être là. Non, mais je t'écoute. Agacée. Donc, à force, je me confiais plus à elle, je lui racontais plus ma vie, etc. Ou à chaque fois, et moi. Et puis, c'est une dame, et moi, t'as pensé à moi. Ah, mais tu t'es acheté une chaussure, je m'appelais pas acheter une paire de chaussures. Quand est-ce que tu m'envoies de l'argent? Parce qu'en Afrique, on doit sa vie à ses parents.
C'est ça.
Donc, je reviendrai. On n'a pas demandé à être là, je suis désolée si vous avez copulé, on n'a pas dit est-ce que tu peux faire en sorte que je vienne dans ton ventre. Moi j'étais accouchée, non mais on dirait que c'est nous, on a demandé à être là.
Ouais, mais en fait on doit payer le prix.
On doit payer le prix, mais c'est ça en fait, ma mère elle m'a dit concrètement qu'on est sa retraite et qu'on a concrètement une dette envers elle.
Mais c'est ça.
Et donc je sais que mon frère continue à l'aider financièrement et tout, mais moi j'ai dit je me dédouane de ça, enfin j'ai pas à lui envoyer mon argent alors que déjà j'étais à l'époque en grosse difficulté financière et à chaque fois j'étais traitée de sale fille égoïste, je pense qu'à ma gueule, puis je peux crever la gueule ouverte, enfin je vais jamais trop demander d'aide, enfin toujours ça, et puis c'est pour ça que j'ai arrêté de lui parler d'ailleurs, enfin voilà, pour plein d'autres choses et tout, mais toi-même tu sais laisser les parents les coutumes africaines et tout, il y en a des très bien, je crache vraiment pas dessus, mais il y en a d'autres, faut arrêter. Stop. On leur doit la vie. Enfin, vraiment.
Non, mais c'est ça, quoi. C'est le prix de notre entrée dans le monde, quoi. Ça vaut cher, quoi.
Ça vaut très, très cher. Mais ça vaut. N'empêche, tu dois prendre soin d'eux tout le temps. Je veux bien, si tu m'as bien aidé, bien. Mais quand tu as été mauvais, méchant vers moi, manipulateur, égoïste, etc., faut pas arrêter. Faut arrêter au bout d'un moment. Mais tu leur dois tout. Tu leur dois. C'est pour ça que j'avais ces visions, je pense, de dieu, de déesse envers ma mère, parce que c'est vraiment un piédestal, on l'aimait, et puis il y a cette notion de subordonné, donc hiérarchique, toujours. La fameuse phrase, je ne suis pas ton égal. Respecte tes aînés, nanana. Moi, j'ai jamais respecté mes aînés si on me respectait pas, et je me souviens que quand on allait en Mauritanie, Sénégal et tout, moi, je me prenais la tête avec des gens qui avaient plus de 20 ans que moi parce que je leur disais, t'as pas à me parler comme ça alors que, oui, mais tu me dois le respect, etc. Ah, mais c'est parce que t'es une blanche et tout, machin. Je dis, non, moi, je suis tranquille, je me considère comme noire, t'inquiète pas, que je suis peut-être très quart de peau, mais j'ai été élevée par une femme noire, par des femmes noires, etc. Je sais très bien qui je suis, je sais très bien où est ma place, mais au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule de ma gueule, quoi. Enfin, tu me manques de respect, je te manque de respect. C'est tout.
C'est sûr.
Basta.
Voilà. Ok. Alors, tu nous as partagé ton enfance, ton adolescence. On va maintenant s'intéresser à ta vie en tant que jeune adulte.
Yes.
Toujours, hein, quand on arrive à l'âge adulte, notre identité commence à se définir de plus en plus. Est-ce que tu peux me décrire la jeune femme que tu étais à 18-20 ans? Il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, ça commence quand même à un petit peu 10 ans quand même. Ça commence à se dire, oula, j'ai été une jeune femme déjà étudiante, j'étais nantaise, très fêtarde. Donc, comme j'ai dit, j'ai très vite fait la fête pour m'émanciper, pour vraiment me vider la tête, m'échapper. J'avais rejoint mes meilleures copines que j'ai depuis toujours et qui est en Bretagne, parce que Nantes, c'est la ville étudiante, ça fait partie de Rennes, etc. Donc voilà, très vite dans la fête, très vite dans la joie. N'empêche, j'allais en cours et tout, j'ai mon BTS. Mais voilà, j'étais très fêtarde et tout. Et j'ai rencontré un homme, un jeune homme de mon âge, à 19 ans, donc dès que j'ai eu mon bac, la première semaine, en fait, j'ai rencontré un jeune homme avec qui j'ai partagé 2 ans de ma vie, et donc voilà, mais ça m'a très vite, je suis vraiment très vite tombée au vol parce que j'ai subi des violences conjugales et morales de la part de ce jeune homme pendant 2 ans. Et donc la jeune fille qui était vraiment en découverte et vraiment j'étais si heureuse, vraiment c'était le bonheur d'être libre, j'habitais dans mon petit logement Crous, j'avais mes copines, je sortais le jeudi soir, j'allais en cours le vendredi matin, ou des fois je n'y allais même pas, mais voilà quoi. Et donc j'ai rencontré ce jeune homme qui était mon premier amour, vraiment que j'ai aimé vraiment de fou malade, voilà, donc on a passé 6-8 mois de pur kiff, et puis au bout d'un moment cet homme s'est mis à me taper, donc voilà, donc un re-schéma qui revient. Donc j'ai été très très vite à nouveau très sous l'emprise de quelqu'un, parce que c'était un vrai manipulateur qui m'enfermait, qui me disait toujours que mes amis garçons, ils voulaient qu'une chose, c'était me sauter, alors que j'avais mes amis depuis bien longtemps, que mes copines n'étaient pas mes vraies copines. Et donc voilà, on a très vite emménagé ensemble, enfin on était tout le temps ensemble, enfin vraiment c'était l'amour fou de jeunesse, c'était très beau au début. Et puis son comportement a très vite changé, il avait des problèmes d'alcoolisme, donc l'alcool, il avait tendance à être très violent, à chercher la bagarre, etc. C'était un ultra, hein, faut pas s'étonner. Et donc voilà, donc je me souviens, on allait un mois avant qu'on emménage ensemble, donc c'était chez ses parents, on était en transition. Un soir, on jouait aux cartes avec des copains, lui chez ses parents n'étaient pas là. Puis il avait énormément bu, il m'a accusé de mentir et j'avais pas menti, effectivement, j'avais pas triché. Et le soir même, j'étais partie me coucher, il est venu et puis il m'a frappé. Cette nuit-là, il m'a tapé concrètement, et le lendemain, il s'est réveillé comme si rien n'était. Et puis à chaque fois, c'était ça. Ah bon, je t'ai tapé. Ah bon, je m'en souviens plus. Désolé. Enfin bref. Et donc j'ai plongé dans. J'avais déjà des. Enfin, j'étais une étudiante, mais qui buvait comme tous les autres étudiants. Mais là, j'avais commencé à avoir une sacrée descente avec lui pour pouvoir oublier tout, parce que j'étais dans un schéma vraiment. Enfin, si je partais, je donnais raison à ma mère, dans le sens où t'es trop jeune pour emménager avec quelqu'un, tu vois, etc. Pourquoi t'es partie? Pourquoi t'es pas restée avec moi? Donc c'était vraiment un engrenage sans fin. Et ce mec me disait toujours oui, mais qu'est-ce que tu feras sans moi? Façon, il y a toujours meilleur que toi. Donc qu'est-ce que tu veux faire de ça si ça? Vraiment une manipulation, t'es bête. Enfin, vraiment, je me souviens qu'à l'époque, je prenais la pilule parce qu'on savait pas que j'avais une certaine maladie gynécologique, donc j'avais pris un peu de poids. Donc à chaque fois, on me disait quand est-ce que tu fais un régime. Puis puis ses potes même s'étaient mis dans le truc de me détruire. Enfin, c'était très très dur psychologiquement. J'ai eu la force de le quitter grâce à ma meilleure amie qui entendra sûrement ce podcast. Qui m'a dit que je subissais des violences conjugales et que un jour, ça allait être lui ou moi, concrètement. Il y avait plus de chances que ce serait moi qui allait finir par être tué. Donc, ça a été très dur. Je l'ai quitté au bout de 2 ans. Je suis partie, j'ai pris mes kicks et mes claques. Et tout ça, c'est de mes 19 à 21 ans. Donc, vraiment, j'étais heureuse sans l'aide. En fait, j'étais très mal tirée heureuse. Parce que j'avais cette forme de liberté, mais en même temps, j'étais un oiseau en cage. Je n'avais aucun soutien à part je n'osais pas dire à mes copines parce que c'était la honte, surtout très jeune, on ne pense pas les violences, et c'est ce que je tiens à dire vraiment dans ce podcast, il n'y a pas d'âge pour les violences conjugales et pour les violences morales, et que vous ayez 16, 15, 20, 30, 60 taper et faire des sévices morales, c'est pas normal quoi. Donc vraiment allez voir les numéros, renseignez-vous, portez plainte, protégez-vous, enfin bref. Et donc ça a été une période très très complexe. Encore une fois, c'était la liberté sans l'avoir, et voilà quoi. Donc heureuse sans l'être, voilà.
D'accord. Est-ce que t'as, enfin durant pendant cette toute cette violence, est-ce que t'avais l'impression de rejouer en fait, de reproduire le schéma en fait de tes parents?
Oui, je pense, parce que moi j'ai toujours cherché, comme j'ai dit, mon père est parti très tôt, on allait le voir pendant les vacances, j'ai vu qu'un peu avec lui, mais en fait dès l'âge de 13 ans mon frère a été lui parler et moi aussi. Mais c'était en en couper. Des fois, je lui reparlais, des fois, je lui reparlais pas. Et puis, un jour, il s'est décidé de ne plus me parler du tout. Mm-hmm. Et ouais, je cherchais une sorte de... Enfin, moi, j'ai été très vite attirée par les garçons. J'ai toujours cherché... Enfin, quand j'avais 14-15 ans, je vais dire une chose, mais les filles noires et métisses n'étaient pas à la mode. Oui. Donc, on n'attirait pas les garçons, on se sentait très vite rejetés, etc. Oui. Et puis, quand j'ai commencé à avoir 16-17 ans, il y a eu un gros switch qui s'est fait. Oui. Donc, voilà, j'avais pas mal de prétendants, etc. Et puis, j'adorais l'attention parce que, ah, oui, t'es belle, t'es jolie, puis on te complimente, et puis ça, oui, fait plaisir. Donc, oui, oui, j'ai eu ce garçon très vite qui a été très vite à... Je pense qu'il m'a très vite aimée. Et qui a très vite eu de l'attention vers moi, etc. Et puis, il me faisait faire pas mal de choses. On voyageait, on faisait beaucoup de choses. Mmh. Et donc, j'avais peur de le perdre parce que c'était tout pour moi. Et il ressemblait, c'est drôle parce qu'il avait un peu d'air de mon père, quand j'y pense. Oui. Des yeux clairs, un pif assez crochu, etc. Mmh. Mais il était blanc aussi. Et Et donc oui, je cherchais une valeur, même si j'avais mon grand frère, je cherchais vraiment une validation masculine. Mmh. J'avais besoin d'être guidée par un homme et vraiment qu'on me dise c'est bien ce que tu fais, c'est pas bien. Mmh. Et oui, c'était comme, c'était vraiment toxique quoi, parce que même de mon côté, enfin de chercher ça, c'est pas correct. Et j'étais dans, au lieu de me concentrer vraiment que sur ma découverte de moi-même où j'avais vraiment ce choix de pouvoir vraiment me focus que sur moi-même, ben je me suis focus sur un jeune homme, sur un homme. Et donc c'était complètement, les rapports étaient complètement biaisés dès le départ. Mmh. Et oui, enfin c'était vraiment ce manque de père que je cherchais, ce manque de relation masculine que j'ai cherché dans mes relations pendant un long moment.
Mmh. Voilà. Ok. Alors, quand on a grandi au sein d'une famille dysfonctionnelle, on développe malgré nous, des traits de caractère typiques d'enfants victimes de parents toxiques, comme le perfectionnisme, l'hypervigilance, le syndrome du sauveur, le manque de confiance en soi, la mauvaise estime de soi, la dépendance affective. Mmh. De toute façon, tu en as déjà un peu parlé. Qu'est-ce que tu as développé comme caractéristique symptomatique de ces traumatismes?
Excuse-moi, tu peux reposer la question parce que j'ai pas su.
Alors, qu'est-ce que tu as développé comme caractéristique justement symptomatique de tes traumatismes d'enfance? Tu sais, est-ce que le manque d'estime de soi, genre de choses.
Bien sûr, le manque de confiance, ça vraiment, c'est quelque chose qui m'a suivi un long moment. Mm-hmm. Le syndrome de l'imposteur aussi, qui m'a suivi jusqu'à peu. Mais vraiment,
est-ce que tu peux nous en dire plus justement par rapport au syndrome de l'imposteur? Oui.
Bien sûr. Je suis quelqu'un qui a été déclaré dyslexique à l'âge de 6 ans, donc j'ai eu une superbe orthophoniste du CP au CM2, mais j'ai toujours ramé comparé aux autres. J'ai toujours dû travailler beaucoup plus, aller beaucoup plus, je sais pas comment dire, mais je me suis toujours donné les moyens de réussir. J'ai eu un bac pro, certes pro, mais quand même, c'est moi qui ai choisi d'aller en pro avec mention. J'ai eu mon BTS, des BTS les plus durs. Mais je me sentais pas légitime d'avoir un certain statut, d'avoir un certain job. Aujourd'hui, je suis cadre pas une multinationale, mais une société internationale, dans une école de commerce international. Mmh. Et jamais de la vie, je me serais dit un jour que ça m'arriverait, parce que je pensais pas être légitime. J'étais, mais ma dyslexie, elle va se faire découvrir. On va voir que c'est le poteau rose, que je rame, etc. Mmh. Et un gros manque de confiance en moi. Enfin, je suis quelqu'un qui n'a pas su parler clairement avant l'âge de 6-7 ans, parce que je pense que du fait des traumatismes et de la dyslexie, mes idées se mélangeaient trop, mes pensées aussi. Donc, je pouvais parler d'un cheval et d'un gâteau et de Mars dans la même phrase. Mmh. Voilà.
D'accord.
Et il y avait ça. Il y avait aussi, aujourd'hui même, je pense que je fais très peu confiance aux gens. Même envers mon partenaire d'aujourd'hui, qui est une personne formidable et tout, je n'ai pas confiance en 100%. Je n'arrive pas à accorder ma confiance à 100% envers les gens. J'ai toujours cette méfiance qui existe envers tout le monde. J'ai toujours peur qu'on me fasse du mal, que ça se retourne, que la situation change, que le visage change, etc. Ça va beaucoup mieux qu'avant, mais j'ai développé une certaine paranoïa à une certaine époque. J'ai très peu d'amis, mais ça, c'est un choix personnel encore parce que j'ai du mal à accorder ma confiance. Et voilà, j'ai subi aussi des symptômes post-traumatiques. Voilà, j'ai développé des tendances suicidaires à l'époque, d'addiction aussi. L'addiction, ça fait partie à l'alcoolisme et à certaines substances de type shit. Mais voilà, une certaine période de ma vie, j'étais accro à ça et donc voilà, donc des addictions, des manques de confiance. Même mentalement, je me souviens que j'étais ma pire ennemie. Enfin, je me rabaissais tout le temps. Le fait de se rabaisser. Puis un jour, j'ai connu l'éveil. Enfin, je me suis vraiment éveillée. Et j'ai switché ma mentalité. Parce qu'un jour, j'en ai eu juste marre. J'étais soit je continuais. Et la vie ne valait vraiment pas le coup de continuer ainsi. Et voilà, quoi. Et donc, j'ai basculé. J'ai fait une sorte de renversement. Il y a beaucoup. Je pense que ça ne part pas du jour au lendemain. Il y a un travail énormément qui est fait chaque jour de ma part. Et voilà. Mais voilà, c'était ça en gros que j'avais développé.
D'accord. Est-ce que tu avais conscience que en fait ces comportements avaient un lien direct avec tes blessures d'enfance ?
Oui. J'ai toujours été très consciente de ça, que ça avait un lien avec mes blessures d'enfance, avec ma mère, avec mes parents. Avec les attouchements, par la suite, qui ont été très destructeurs. Vraiment, tout ça, ça a été... En fait, c'était que l'effet de l'avalanche, c'était les conséquences, excuse-moi l'expression qu'on dit de conséquences à effet, c'était juste le résultat de beaucoup de traumatismes, de beaucoup de choses que je n'aurais pas dû subir, pas dû voir, pas dû entendre. J'ai toujours été, en fait, c'est ce qui m'a sauvée. Je pense que c'est ma lucidité qui ne m'a jamais perdue. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me dis waouh, j'ai pas perdu la boule. C'est incroyable que j'ai jamais fini en HP parce que plusieurs fois, il y a même encore pas longtemps, j'en parlais avec mon conjoint, je lui disais, j'hésite à faire un séjour en clinique psychologique, psychiatrique, parce que il y a encore pas longtemps, je me réveillais en pleurs, et je lui disais que je recommençais à avoir des idées suicidaires, etc. Mais j'ai toujours été consciente que c'était ça. Donc ça m'a beaucoup servi. Et voilà quoi. Donc je pense que c'est ma lucidité m'a sauvée aussi. Voilà.
C'est sûr. Ok. Et justement, est-ce que tu as consulté entre-temps des professionnels pour te libérer justement des parents toxiques, de tous ces traumatismes pour en guérir ?
Oui. Oui, j'ai consulté, pas énormément. J'ai fait en tout 4 séances dans ma vie, 5 si on compte la séance pour le divorce des parents qui est obligatoire. Mais en 2020, juste avant le confinement, j'ai décidé d'avoir un psychologue parce que je venais de me séparer d'un conjoint qui était formidable à l'époque, mais j'étais pas bien, et donc voilà, et donc c'était un peu too much, et donc beaucoup de choses étaient revenues à la surface. Donc j'avais commencé 3 séances de EMDR, je crois qu'on dit ça. Mais le confinement est arrivé, donc séance suspendue. J'ai pas repris par la suite parce que je pensais ça allait beaucoup mieux. Ça m'avait fait énormément de bien parce que j'avais réussi à dire les choses et tout. J'avais été diagnostiquée donc avec du stress post-traumatique, donc non dépressive à l'époque. Mais entre-temps, j'ai été diagnostiquée avec un autre trouble. Et donc voilà, je pensais que le fait d'être en confinement, moi j'ai été enfermée un mois toute seule avec mon chat, ça m'a fait un bien fou de ne pas voir les gens, de ne pas voir ma famille, etc. Ma mère et tout. Et vraiment, je me sens à nouveau libre, alors que personne ne s'est senti libre concrètement, sauf moi. Et donc voilà, par la suite, j'ai revu une psychologue il y a quelques mois, ma grand-mère paternelle avec qui j'avais plus de contact parce que ça engendrait beaucoup de conflits familiaux, mais je n'avais plus de contact depuis très longtemps alors que j'adorais cette femme qui est décédée il y a un an et quelques. Sauf que j'ai fait un déni un déni total de son décès, parce que je n'ai même pas été prévenue. J'ai été prévenue par une amie qui habite au Sénégal, qui a été morte. Mon père ne s'est même pas donné la peine de m'écrire. Et il y a quelques mois, j'ai réalisé qu'elle était morte et que j'aurais plus la chance de réparer les choses, de la revoir, etc. Et ça a été un coup dur, vraiment une matraque. Enfin, moi, j'adorais mes grands-parents, tous mes grands-parents, mais voilà, et donc une nouvelle dépression, enfin vraiment tout ça. Donc, je pensais, j'avais à nouveau des pensées suicidaires, et c'était soit ça, soit voilà quoi. Donc j'étais allée voir une psy, un peu particulière la psy. Elle avait une méthode un peu particulière, mais je lui ai parlé en gros. J'ai eu le temps de lui parler de comme toi, d'assez tout. J'avais plus développé aussi sur mon père et tout, parce que mon père m'a fait subir des choses aussi pas très cool. Et c'était pas la première. Ma psy présidente m'avait dit que ma mère était folle. Enfin, concrètement, j'avais des parents fous et que ma mère devait vraiment consulter, parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas chez elle. Et elle aussi, elle m'a dit, en fait, vos parents, votre père... elle avait... C'est une psy qui, dans un protocole, qui dit la vérité, en fait, elle va te parler comme si c'était ta pote. Donc, elle m'a dit, votre père, c'est un connard manipulateur, et votre mère, c'est une grosse folle. C'est pas la première fois qu'on me confirme le profil psychologique de ma mère et tout. Et je suis pas allée la revoir parce que ses horaires correspondaient pas après à mon nouveau travail. Je m'étais dit... que j'irais sûrement trouver un psy qui me... En fait, moi, je cherche un psy noir, ou une psy noire, et que j'ai trouvé, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le schéma africain, etc., que eux ne vont pas forcément comprendre, relayer, et j'ai besoin de vraiment de quelqu'un qui comprend ce schéma, ce schéma familial. Voilà, quoi. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, et je conseille, c'est un certain budget. Aujourd'hui, la sécurité sociale a mis en place des remboursements pour certains, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Voilà.
Ok.
Je faisais énormément de sport, pardon, je tiens juste à revenir là-dessus, mais moi, mon psy, c'est le sport. Donc, comme j'ai dit, j'ai toujours fait du sport depuis l'âge de 5 ans. J'ai fait de la danse, de l'athlétisme. Je fais énormément de fitness depuis 3-4 ans. D'accord. Et du sport en salle. Donc, je donne tout au sport. Je me vide vraiment. C'était mon sanctuaire. J'ai fait énormément de méditation. Je lis. Enfin, vraiment, c'est le sport. Les activités m'a sauvé. J'ai commencé le yoga il y a peu. J'ai dû arrêter à cause d'une blessure, mais vraiment, c'est... Faites du sport. Dépensez-vous. Ça fait énormément de bien. Faites de la boxe. Faites quelque chose. J'ai fait des arts martiaux. Qu'est-ce que ça fait du bien de se défouler. Enfin, vraiment, c'est aussi une thérapie. Le sport, les activités sont aussi une thérapie, quoi.
C'est sûr. C'est sûr. Voilà. On va basculer dans le présent. De toute façon, on va basculer. On a déjà basculé dans le présent. On va parler de podcast. Comment tu as découvert mon podcast ?
Moi, je l'ai découvert vraiment. J'ai fait une recherche sur Spotify. J'ai tapé parentalité toxique. Et ton podcast a apparu dans les premiers résultats. Donc, ce qui m'a plu, c'est que pour une fois, c'était une jeune femme noire. Moi, je suis très communauté, très. J'aime beaucoup vraiment qu'on s'entraide entre nous, parce que je pense qu'on n'est pas assez mis avant, surtout dans les profils psychologiques et psychiatriques. C'est ça. Où on n'ose pas dire parce qu'il y a la honte, etc. Donc, je suis allée sur ta page, j'ai vu. Donc, j'ai écouté un podcast de ta part. Tu as fait venir une écrivaine dont j'ai acheté son livre même. Une jeune femme qui avait des enfants. J'ai son livre qui est pas très loin, d'ailleurs.
C'est laquelle ? C'est Rose Matthews ou c'est...
Rose Matthews, c'est ça. Elle a un nom américain. Elle avait un nom américain et vraiment, j'ai beaucoup...
Je vais lui dire, ça va lui faire
plaisir. Oui, je l'ai commandé, j'en sais rien, le jour même, j'ai dit à mon conjoint, prends-moi le livre, s'il te plaît, sur le compte Amazon et tout. J'ai toujours pas commencé à lire parce que j'ai déjà un autre livre sur la parentalité toxique. Mais ça m'avait beaucoup touchée, j'avais beaucoup aimé la trame de ton témoignage. Puis j'en avais écouté un autre, je crois, aussi, où tu parles... Enfin, j'ai écouté plusieurs de toi où tu parlais de toi-même, de plus ou moins ton parcours avec tes pas... avec la parentalité toxique, même des fois tu fais des formats courts sur Instagram et tout. Et je me sens, ça m'avait fait beaucoup de bien. Enfin, j'avais beaucoup aimé la trame de ton podcast et le témoignage et comment tu laissais la parole aux gens. Et donc j'étais en mode ok. Et en fait, t'es le premier podcast que j'ai entendu sur la parentalité toxique et je crois le seul.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon, parce que j'ai vu que tu commençais plus ou moins, mais je me suis dit si c'est toujours bien de rapporter son témoignage, donc j'ai dit vraiment volontiers. Ça m'a beaucoup aidé, donc voilà, pour moi il faut recevoir mais aussi redonner. Donc j'ai reçu ce cadeau vraiment de découvrir ton podcast et je me suis dit j'ai toujours voulu partager mon témoignage parce que je pense que c'est toujours bien de savoir qu'on peut s'en sortir et c'est vraiment que tout n'est pas figé dans le temps. Vraiment, c'est pas parce que vous vivez un instant terrible que ça va rester ainsi. Il y a la lumière au bout du tunnel et croyez-moi, faut que vous soyez votre meilleur allié et ça va aller quoi. Donc voilà. Donc voilà, comme ça que j'ai été découverte.
Aujourd'hui, tu aspires à devenir quel genre de femme ?
Une femme toujours aussi libérée. Ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. J'ai toujours été très ouverte d'esprit, très. Je tiens à avoir une certaine jovialité. Malgré tout, j'aspire à être encore plus heureuse que je le suis aujourd'hui, à aller au bout de mes ambitions et de mes rêves. Moi, j'ai toujours vraiment, c'est peut-être, non, c'est pas too much, mais vraiment, je tiens à aspirer inspirer les autres jeunes femmes aussi, issues de la diversité, vraiment, toutes les jeunes femmes à se libérer, à croire en elles et à croire en eux, parce que les garçons aussi subissent la parentalité toxique, tout le monde, non binaire, peu importe comment vous identifiez, mais j'inspire vraiment à croire en soi et à être libre et à ne plus, personne sur un point de vue personnel, à ne plus avoir ces chaînes mentales qui m'ont été imposées depuis ma tant d'enfance et qui ont fait qui je suis, mais m'ont aussi bloqué dans pas mal de choses et j'aspire à être aussi libre que je le souhaite mentalement. Aujourd'hui, c'est pas guéri à 100%, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais pour moi, j'ai accompli 70% de ma guérison. Vraiment. Okay. Je pense pas que le 100% existe, parce qu'il y a toujours les souvenirs, etc., mais, et voilà. Et puis, j'ai les ambitions de maternité aussi, où on souhaite fonder une famille avec mon conjoint, mais avant tout, moi, on tenait à ce que psychologiquement, beaucoup de choses pour moi soient réglées.
C'est sûr.
Pas mal de choses et voilà. Voilà, niveau travail, j'ai accompli il y a très peu un certain palier. Donc je suis devenue cadre. Je travaille dans un milieu international. Je suis assistante de direction bilingue pour un certain service qui est très important d'une école de commerce à Paris, l'une des dans le top 4 du monde. Moi, j'ai toujours été dans un milieu cosmopolitain, donc j'ai commencé à apprendre l'anglais à 3 ans. Parce que j'ai eu des parents qui ont toujours voulu qu'on apprenne des langues étrangères. J'ai fait le lycée j'ai toujours appris l'anglais. Enfin, j'ai énormément voyagé. Il y a très peu dans les pays anglophones. Mais j'ai fait de la traduction, l'interprète aussi en anglais, dans des salons internationaux. Et donc pendant très longtemps j'ai été bloquée dans des métiers où j'étais payée au SMIC, qu'on me considérait pas, mais vraiment pas. J'ai subi de l'harcèlement physique et moral, sexuel et moral pardon, dans des tafs. Enfin, j'ai eu des boulots de merde. J'ai beaucoup changé de taf et c'est ce qu'on m'a beaucoup reproché de ma mère, même de mon frère qui était mais comment ça se fait que tu changes autant de boulot ? Ben si je me plais pas, je me barre en fait. J'ai pas cette notion d'attachement. Enfin, si ça ne va pas, je me barre et puis. Et puis voilà, encore une fois, je suis très bien entourée aujourd'hui, de par des amis qui se reconnaîtront et de par mon conjoint vraiment qui m'a littéralement sauvée. Sans lui, en fait, aujourd'hui, concrètement, non, j'aurais passé l'arme à gauche. Mais il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup au quotidien épaulée. Qui fait qu'aujourd'hui, j'ai atteint un certain statut de cadre, même je travaille en freelance à côté sur les réseaux sociaux. J'aspire à être aussi libre financièrement, indépendamment, psychologiquement, tout l'inverse de ce que j'ai toujours vu dans ma vie, quoi. Vraiment, ne dépendre de personne. Vraiment. Voilà, quoi. Okay. Que de moi-même.
Bah, t'as raison. Et justement, comment tu t'y prends pour justement aspirer? Parce que t'as dit qu'il manquait 30% pour... entre guillemets, pour être totalement libre. Parce que quand tu dis que les 100% de guérison, c'est pas, tu penses pas que ça soit possible, c'est possible. Hein. Oui. Les souvenirs, en fait, n'empêchent pas la guérison. Les souvenirs, de toute façon, j'avais fait un podcast là-dessus.
Ouais.
C'est important d'avoir les souvenirs parce que, en fait, si tu es totalement amnésique, tu seras plus à même, en fait, de retomber dans les schémas toxiques.
D'accord.
Parce que, tu vois, parce qu'en fait, les souvenirs sont là pour dire attention. Là, rappelle-toi ce qui s'était passé, tu vois, il y a quelques temps. Là, si tu continues sur ce chemin, tu vas reproduire la même chose. Donc, les souvenirs sont là comme quelque part aussi pour nous protéger, pour éviter en fait qu'on refasse le même schéma.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas agréable, mais c'est important de les avoir parce que c'est comme un garde-fou quoi quelque part.
D'accord. Oui. Mm. Non mais t'as raison, j'ai jamais vu, merci beaucoup parce que je l'ai jamais vu comme ça, c'est vrai que ça reste un garde-fou, moi j'avais toujours tendance à dire ah, si je pouvais me lobotomiser le cerveau, enlever mes souvenirs, je le ferais, mais vu comme ça, ouais, parce que j'ai beaucoup de souvenirs durs, mais vu comme ça, c'est vrai que c'est un garde-fou, je vais le voir comme ça maintenant, merci beaucoup.
Ouais, je sais plus, mais j'avais donné un exemple, et d'ailleurs je vais le dire rapidement, c'était une femme qui avait subi en fait des attouchements ou un viol, de toute façon c'est pareil, et de la part de son père, et forcément elle a été super traumatisée, donc elle a tout fait pour enfouir ses souvenirs douloureux. Et le problème c'est que plus tard elle a eu des enfants dont une fille, et elle a confié en fait sa fille à son père qui malheureusement a reproduit la même chose, et elle avait oublié tout ça, donc pour elle, c'était safe, en fait, de confier sa fille à son père. Sauf que, donc, elle s'est confiée à un psychothérapeute chrétien. Faudra que je retrouve l'épisode et je t'enverrai sur Instagram. Et donc, ils ont fouillé et ils ont travaillé ensemble. Et en fait, les souvenirs sont réapparus. Et là, elle a été prise de culpabilité en disant « mince, quoi ». C'est en gros, c'est, quelque part, c'était de sa faute parce que comme en fait, elle a été dans le déni pendant longtemps, en fait, elle a mis en danger sa fille sans le vouloir, tu vois. Et si elle s'était rappelée de tout ça, elle n'aurait pas commis cette erreur, tu vois, de confier sa fille à son père qui n'a jamais été guéri, qui n'a jamais été traité par cette maladie, quoi, qu'il avait. Tu vois, donc, ce genre de souvenirs, même si c'est douloureux, c'est important de les avoir en tête pour, justement, pour se protéger soi et pour protéger aussi son entourage.
Donc, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et là, c'est un cas, waouh, c'est extrême. C'est extrême de fou. Et j'ose même pas imaginer le niveau de culpabilité qu'elle a dû ressentir. Et encore une fois, c'est pas de sa faute. Enfin, vraiment, c'est... Elle est vraiment pas blâmée dans l'histoire, c'est affreux, c'est juste affreux.
Ouais.
Mais je comprends tout à fait, je vois ce que tu veux dire et moi j'ai ce qu'on appelle une hyper mémoire, donc je n'oublie pas les choses difficilement. J'ai des souvenirs dès l'âge de 2-3 ans et c'est très difficile. Enfin c'est pour ça, je pense que moi ça m'a joué des tours dans le sens où j'ai le spectre de la dyslexie et plein de choses, je pense qui n'ont pas été détectées, mais je réfléchis énormément, ça me fait des insomnies, des trucs comme ça, parce que mes souvenirs tournent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui, donc c'est pour ça que je dis que je suis à 70%, et si tu veux qu'on revienne aux 30%, je pense, restants, c'est ça, non? Les 30% restants, quand je dis qu'il reste 30%, parce que, en fait, j'ai arrêté de parler à ma mère, j'ai pris la décision d'arrêter de lui parler depuis fin novembre. Ça a été un processus, ça n'a pas été une décision facile, mais je suis arrivée à un point de non-retour. J'ai énormément de patience. C'est pas la première fois qu'on ne se parle plus, mais ça n'avait pas duré autant de temps. Mais là, je lui ai concrètement dit les choses. Je lui ai dit qu'elle était une personne méchante, mauvaise. De toute façon, j'ai jamais eu de vrais parents. Que j'ai toujours été toute seule avec mon frère, qu'on a toujours été tout seul, et que voilà, j'en ai un peu marre d'être sa banquière, parce que voilà, elle avait tendance à me réclamer beaucoup d'argent, j'ai pu aider comme je pouvais, et au bout d'un moment, il faut se trouver un boulot, voilà, pour travailler comme tout le monde, il n'y a pas d'excuses, voilà. Il y en a qui sont tétraplégiques et qui travaillent, donc au bout d'un moment, il faut arrêter de trouver des excuses. Et donc voilà, j'en ai eu juste marre, parce que il y a toujours, toujours cette façon de me traiter d'égoïste et tout, alors que j'ai fait énormément de choses cette famille et que pour elle, et que voilà, j'en ai juste marre qu'on me traite pas à ma juste valeur, qu'on me traite comme une merde, etc. Donc j'ai dit écoute, je m'estime pas, j'ai pas l'impression que tu m'aimes réellement, parce que c'était que pour l'argent. Et c'est mon conjoint qui m'a toujours dit au début, mais ta mère, elle t'écrit toujours que pour l'argent. Elle t'appelle que pour te demander de l'argent. Jamais elle va te demander de tes nouvelles, etc. Il y a toujours une notion d'argent qui se fait. Et au bout d'un moment, voilà quoi, je suis pas la banque, je suis pas la Banque de France, je suis ton enfant avant tout, et je lui ai dit, bah écoute, enfin, moi au bout d'un moment c'est ça simple, soit si tu restes avec moi, si tu me passes quand même un coup pour mon argent, c'est que tu ne m'aimes pas, concrètement, donc voilà, j'ai dit à mon frère, j'ai appelé mon frère, j'ai dit à ma sœur, j'ai dit au bout d'un moment, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'ai vécu des choses que vous n'avez pas vécues, je pense que mon frère a vécu pas mal de choses aussi traumatisantes, etc., mais... moi c'est ma vérité, quitte à ce que je sois Thanos pour tout le monde, ben je serai Thanos, mais j'en ai rien à faire, au bout d'un moment c'est mon bonheur psychologique et je subis trop de sa part, enfin c'est too much, et j'ai choisi la paix, en fait, au bout d'un moment je choisis la paix intérieure et j'en ai marre, et c'est très dur parce que psychologiquement ma mère, c'est comme toute petite fille, j'aimerais me marier un jour, le fait de se dire qu'elle sera probablement pas mon mariage, que j'aurai des enfants, qu'elle ne sera pas là quand j'aurai des enfants, je rêve énormément d'elle à chaque fois, où elle vient, ma mère, en fait, elle a tendance à revenir sans demander pardon. Il n'y a pas le excuse-moi, et puis très vite ça re-switch au même schéma, elle va être très gentille, puis après ça re-switcher. Mais maintenant dans mes rêves j'arrive à lui dire non, donc j'ai franchi une certaine étape où je lui dis non, c'est pas comme ça, il faut vraiment que tu mettes tes paroles, faut que tu les en acte et que le pardon soit réalisé, enfin que tu demandes pardon et qu'il se fasse. Et moi, tout le monde m'a dit, oui, mais tu verras, beaucoup de gens m'ont dit, quand tu auras des enfants, tu vas leur parler. Je dis, mais en fait, si elle est toxique pour moi, elle sera toxique pour mes enfants. Non, je ne veux pas que des gens qui m'ont fait du mal approchent mes enfants sans qu'ils se remettent en question. Encore une fois, je ne suis pas fermée à lui reparler, mais ce ne sera pas de moi. Et comme à mon père, c'est envers mon père qui, lui, c'est un autre schéma, a décidé de ne plus me parler. Mais je ne suis pas une coquille fermée. Je me protège parce que je n'ai pas le choix, vraiment pas le choix pour l'instant. C'était le dernier recours dont j'ai jamais voulu faire, mais je l'ai fait. Et pourtant c'était celle qui était le moins prévisible à lui faire. Franchement, je pensais que c'était mon frère qui allait plus lui parler, mais c'est plutôt moi. Et voilà, mais ça ne viendra pas de moi. Je souhaite que ce soit sincère, et c'est très dur vraiment d'avoir. Je me souviens une fois, il y a pas longtemps, je me suis réveillée en larmes et tout parce que j'ai rêvé qu'elle avait des problèmes de santé et tout, très très grave. Et je voulais limite l'appeler, et en fait pendant 5 minutes je me suis recalmée, je me dis t'as tes frères et sœurs, s'il y a quelque chose ils sont là, etc., t'en fais pas, mais résiste. La résilience, vraiment, c'est mon mot, c'est en tout. Et donc voilà quoi, c'est ça, c'est les 30% restants, c'est une certaine, il y a du bas, enfin même je pense que ça, c'est tout parent, tout enfant qui a vécu avec un parent toxique. Il y a des paroles, il y a des événements dont on va se souvenir, ou même tu vois, des fois tu vas t'énerver dans ta tête et tu vas lâcher un putain, c'est vraiment un connard, ou c'est vraiment une connasse. Enfin, tu repenses des trucs qui vont t'énerver, ou tu vas faire des choses. Même moi, dans mes comportements, même amoureux, des fois, enfin, j'ai tendance pas, je ne crie pas, mais j'ai tendance à très vite m'énerver. Enfin, avoir l'impression qu'on me prend pour une idiote, des trucs comme ça, et voilà, ça peut peser dans mon quotidien, etc., mais je travaille là-dessus, donc voilà, il reste quelques trucs à fixer, à régler, et ce sera parfait.
Yes. Qu'est-ce que la Inès de 2023, devenue femme, voudrait dire à la petite fille qu'elle était, une chose qu'elle n'a jamais pensé ou osé lui dire?
T'es parfaite comme t'es. T'as pas à te remettre en question, et tu ne l'as jamais fait, et ça va aller. Je pense que le ça va aller, vraiment de me confirmer dans ce que j'ai toujours pensé que ça allait se passer, parce que moi j'ai jamais voulu me résilier à encore une fois à ce qui se passait, et la lumière au bout du tunnel arrivera. Ce sera très dur. Ce sera dur. Il y aura des moments durs, mais tu vas toujours t'en sortir. Enfin, vraiment, et de s'aimer. Je pense que je lui dirais de t'aimer avant tout. De pas de faire de toi ta pire ennemie, parce qu'il y a déjà assez trop de méchanceté dehors. Alors, si dedans, dans ton intérieur, tu ne t'aimes pas, ça, je pense que ça m'aurait aidé un peu plus d'être meilleure amie avec moi-même. Plutôt. Et de m'aimer. Aime-toi avant que d'essayer d'être aimée par les autres.
C'est ça.
Et ça va aller.
Ok. Pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, quels conseils souhaiterais-tu leur partager pour les encourager à se libérer de parents toxiques et à aller de l'avant?
Pour vraiment, déjà, vous n'êtes pas seul. Mmh. On n'est jamais seul. On est énormément et vraiment, ouvrez-vous, parlez-en à des personnes de confiance, mais vous verrez très vite que même dans le milieu, peut-être pas du travail et tout, mais vous allez voir que beaucoup ont subi la même chose que vous. Mmh. Renseignez-vous. N'ayez pas peur à toquer à des portes. Si vous vous sentez en danger, que vous êtes mineur, il y a des structures qui sont là. On vit dans un pays qui vit, certes, c'est ADAS, c'est les foyers, c'est pas cool, mais vous pouvez être à 16 ans, vous pouvez demander à être émancipé. Si vous vous sentez en santé capable, même des membres de votre famille qui peuvent vous aider, n'hésitez pas à dire des choses, parce que souvent, c'est pas parce que vous les vivez que les gens les voient. Et c'est ce que j'ai vu. C'est souvent la parentalité toxique qui profite qu'il n'y ait personne pour vous faire subir des choses. Et c'est pas ça. Parce que c'est à huis clos que ça ne se passe pas. Mmh. Et si vous vous sentez en danger, si vous savez que vous subissez des choses morales et physiques indécentes, c'est pas dans votre tête. Vraiment, c'est souvent pas dans votre tête. À 90%, 99%, c'est pas dans votre tête. Donc, n'hésitez pas à en parler, à vous libérer. Et voilà, faites du sport. Faites des activités extrascolaires. Encore une fois, c'est bateau à dire, mais ça fait énormément du bien de se dépenser. Ne restez pas seul. Ne vous enfermez pas dans votre coquille. Ne prenez pas les... Encore une fois, moi, j'ai été dépendante à des substances et vraiment, aujourd'hui, vraiment, j'ai été guérie de ça. Je me suis auto-guérie. J'ai pas fait que parce que j'étais pas à un point d'alcoolisme où je buvais tous les jours, mais quand même, c'était à un certain niveau. C'est de la facilité. Essayez vraiment de trouver quelque chose auquel vous pouvez vous raccrocher et voilà, il y a beaucoup de choses pour lisez, méditez-vous. Il y a aujourd'hui, on a une chance de fou qui s'appelle Spotify, où on a des podcasts, le podcast de Nadia. Et juste entendre les paroles des autres, vraiment, c'est rassurant, quoi. Mmh. Et vraiment, il y a une expression anglaise, enfin, garder la tête haute, vraiment, keep your head up. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel, c'est pas, et encore une fois, c'est pas parce que vous vivez un instant horrible que l'instant est figé et que ça détermine votre futur. Il y a rien sauf vous-même, en fait, qui pouvez le déterminer, et voilà. Tout type de violence est punissable par la loi. Enfin, vraiment, la loi est de votre côté. Enfin, vraiment, il n'y a pas de la loi, les gens. Et voilà, n'hésitez pas s'il faut aller plus loin, s'il faut lancer des procédures pour vous protéger, mais pensez à vous d'abord et pas aux autres parce que vous avez peur que... Ben, en fait, ils savaient juste pas être des connards. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, ils n'ont pas juste à être des méchants et on n'a pas à les protéger si eux, ils ne nous protègent pas.
C'est sûr.
Voilà.
Ok, juste, je me suis rappelée de l'épisode, enfin je pense, c'est l'épisode 55, pardonner ne veut pas dire oublier.
C'est ça, pardonner, ouais.
Ouais, donc tu pourras écouter, si tu le souhaites, cet épisode.
C'est ça.
Comme ça, tu comprendras. En tout cas, merci beaucoup Inès pour ce top témoignage.
Ben, merci à toi Nadia.
Mais écoute, c'est normal, merci de m'avoir consacré de ton temps.
Mais je t'en prie, avec très grand plaisir.
Ouais, bah moi aussi, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir et d'interviewer pour la première fois une de mes auditrices que je ne connaissais pas avant.
Ah ben, je suis très heureuse. Comme moi, vous voyez, le culot, ça paye.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'était intéressant et franchement, continue d'avancer sur le chemin de la guérison. Reste forte et motivée et franchement, encore une fois, merci beaucoup et je te dis à bientôt et prends soin de toi.
Toi aussi, Nadia.
Merci beaucoup. Merci, ciao.
Ciao.
Cette émission touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a encouragé à ne rien lâcher dans l'adversité, car comme l'a si bien dit Inès, il y a la lumière au bout du tunnel. Donc, soyez fortifiés. En attendant, je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao. It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about